se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Avec cette machine à laver, là, j'y vais trembler.
Elle est en panne ?
Jusqu'à 8h.
C'est la panne. La panne de quoi ?
Votre maison.
Vous inquiétez pas, cette panne-là, c'est de la rigolade.
François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h30, c'est RMC, le week-end des experts, le retour, la maison. Et Christian, nous allons maintenant essayer de réparer ce fichu four qui ne marche plus alors que nous sommes confinés.
Voilà, on va avoir un
ça, c'est
spécialiste
dur, hein.
de la question, parce que le fait d'être confiné avec toute sa famille à la maison, eh bien, ça sollicite beaucoup plus un certain nombre d'équipements. Vous parliez du four, on sert beaucoup plus du four en ce moment qu'on ne s'en sert ordinairement, puisque pour beaucoup de gens, il n'y a qu'un repas à la maison, là, il y en a deux. Donc systématiquement, ça double. Et puis, c'est toujours dans ces cas-là qu'on a des pannes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je parlais de mon imprimante Hoki qui était tombée en panne. Eh bien, j'ai eu la démonstration qu'on pouvait avoir un télé-dépannage parce que les gens de chez Hoki m'ont appelé.
Ah oui.
Et puis, ça a été. Alors, ça a pris un peu de temps.
Un peu de temps, quand même.
Parce que là, oui. Entre les différentes fonctions, c'est dingue ce qu'il peut y avoir comme truc dans une imprimante. Ça a pris trois quarts d'heure, mais je salue le dépanneur téléphonique de chez Hoki qui m'a bien dépanné.
Et alors, aujourd'hui, avec la visio, on peut faire des choses incroyables avec son téléphone.
On va en parler. Avec Kevin Brighton qui est avec nous au téléphone de chez Sparica. Alors il va nous expliquer comment ça marche. Bonjour Kevin.
Bonjour Christian, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ça
bonjour,
va,
on est
en pleine forme. Comment ça marche votre système ? Parce que à l'origine, vous êtes un vendeur de pièces détachées d'électroménager, c'est ça ?
Oui, voilà. En fait, nous sommes un site e-commerce où nous proposons en ligne les pièces détachées pour n'importe quelle référence d'appareil, pour tous les appareils de la maison.
Oui.
Et nous proposons la livraison à domicile ou en point relais pour les personnes qui souhaitent changer seulement la pièce détachée et éviter de jeter les appareils.
Et même en ce moment, ça marche, vos livraisons ? C'est pas, y a pas de problème parce que les points relais, il n'y en a plus. Hein. Enfin, il y en a de moins en moins, en tout cas.
En tout cas, oui, c'est vrai, il y en a de moins en moins, mais nous assurons toujours un service à domicile où nous livrons. Nous avons seulement un jour de plus dans les délais de livraison.
D'accord. Alors, le dispositif derrière, c'est quoi ? C'est des tutos vidéo ?
Voilà, en fait, nous proposons une pédagogie qui est gratuite et disponible par le biais de nos vidéos sur le site. Et nous montrons comment diagnostiquer des pannes, faire des entretiens d'appareils et remplacer des pièces détachées. On fait des démonstrations en vidéo et on explique toutes les règles de sécurité, bien sûr, avant d'intervenir. Et nous montrons comment changer les pièces.
Parce que, effectivement, le principal problème pour le particulier, c'est le diagnostic. C'est-à-dire, une machine marche plus, on la regarde, là, on est comme une poule devant un réveil. Hein, on se dit que ça a rien de... Donc, vous arrivez à voir, c'est quoi ? C'est les process de vérification successive ? Comment ça fonctionne ?
Voilà, en fait, nous, on procède étape par étape, où selon un symptôme de panne bien défini, nous procédons à un démontage de l'appareil et à un diagnostic selon les organes qui sont concernés par la panne. Donc, par exemple, un foie qui ne chauffe pas, nous allons montrer comment le démonter et comment aller vérifier les organes qui peuvent être à l'origine de cette panne-là.
D'accord, on va prendre un certain nombre de cas et puis peut-être que nous aurons un auditeur ou une auditrice qui nous appellera pour dire le problème qu'il ou elle rencontre. Vous avez des tutos, mais est-ce qu'il y a aussi une assistance téléphonique ? Parce que c'est bien le tuto, mais quand on lui parle, il ne répond pas. Hein.
Oui, alors nous sommes précurseurs. De la visio en ligne.
Oui.
Donc sur notre site Spareka, nous pouvons proposer un créneau. Nous proposons une tranche horaire avec un expert technique qui va faire un accompagnement personnalisé. Donc cet expert-là va pouvoir sera en fait finalement les yeux et pourra regarder avec la personne en visio, donc parcourir l'ensemble de l'appareil et ensuite définir quelles sont les pannes qui peuvent être à l'origine. Ouais.
Alors attendez, je comprends pas bien là. Ça veut dire quoi? Parce que visio, vous, vous faites des vidéos, vous les diffusez, mais visio, ça veut dire que vous demandez au particulier de prendre son smartphone et de faire une vidéo lui-même de... C'est ça?
Voilà, en fait, on va demander à la personne de se connecter sur une application pour pouvoir établir une connexion en visio. Et ensuite...
C'est-à-dire que vous allez voir en temps réel...
À l'aide de son téléphone ou de sa tablette.
Voilà, vous allez voir en temps réel ce que vous montre la personne chez elle. Et vous allez pouvoir comme ça faire des arbitrages techniques. C'est ça, en fait.
Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, que ce soit visuellement ou même au niveau du bruit. Un appareil en panne, on peut définir assez rapidement, grâce à la visio, quelle est l'origine de la panne et pouvoir y remédier.
Ça, c'est pratique.
C'est génial comme truc.
On a Alexis au 3216 qui veut témoigner ce matin. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Bonjour Alexis.
Bienvenue sur RLC. Vous nous avez laissé un petit message sur Direct Studio. Alors, vous avez réparé quoi à la maison?
Une machine à laver. Le linge.
Et voilà. Exactement. Qui est tombé en panne. D'un coup, elle ne marchait plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est qu'elle s'est... Souvent, c'est des symptômes où elle se met à clignoter, en fait. Le pupitre clignotait de plus en plus. Puis un jour, elle ne fonctionnait plus. Et là, bon, je me suis dit, c'était un peu à l'époque, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup d'obsolescence programmée. Je me suis décidé à la monter. Et à démonter. Et puis, il y avait bien un condensateur, comme on peut voir sur pas mal de trucs informatiques et tout, où on voit le condensateur qui est gonflé, donc c'est souvent une cause de panne, et la réparation, c'est un fer à souder, une commande d'un condensateur de 20 centimes environ.
Oui.
Et je l'ai remplacé, et c'est reparti, j'ai pu la revendre un an après, sans souci, elle a retourné. Quoi.
Eh ben bravo.
Pas aucun problème ensuite.
Alexis, est-ce qu'il ne faut pas être quand même un peu bricoleur, un peu, mettre les mains dans la tête?
Je suis technicien de maintenance, mais c'est vrai que je n'ai pas de connaissances vraiment particulières
en électroménager.
Enfin, vous savez quand même faire une soudure, quoi.
En regardant un peu les tutos informatiques et tout, souvent on voit que c'est les condensateurs qui crament les premiers. Et là, surtout sur la carte mère, sur la carte électronique, il y avait quand même un condensateur de 10 volts sur une carte de 12 volts. Donc c'est vrai que sur la durée, ça allait tomber en panne, quoi.
Alors Kevin Brighton, donc c'est une bonne réparation, ça va tenir?
Ça, c'est une réparation qui est très viable et surtout, c'est une réparation qui est très économique dans le sens où on va seulement réparer aux composants, donc ça demande une certaine compétence en soudure. Mais dès que la panne est localisée, effectivement, c'est viable dans le temps et ça permet de faire repartir l'appareil pour quelques années. Donc, bien sûr, en l'entretenant et en respectant les mesures d'entretien.
Alors, quand on parle soudure, hein, en fait... c'est quand même très simple, hein. C'est un petit fil d'étain, un fer électrique, hein. Et puis c'est un point de soudure, c'est ça, hein. C'est pas très compliqué.
Non, c'est pas très compliqué en soi, c'est ce qu'on apprenait plus ou moins en technologie au collège.
Eh oui, autrefois. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas.
Non, je ne pense pas.
Alors, Kevin, on va prendre peut-être quelques cas précis. Le cas classique, c'est le lave-linge qui ne vidange plus. Hein. Je pense que tout le monde a connu ça à un moment ou à un autre. Ça vient d'où et qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, généralement, un lave-linge qui ne vidange plus, c'est un lave-linge qui peine à évacuer l'eau qui peut être présente dans la cuve. La première mesure à adopter, c'est d'aller vérifier tout de suite le filtre de vidange qui se situe en bas, généralement en bas à gauche ou à droite, selon la composition de l'appareil, et d'aller voir l'état de ce filtre. On peut retrouver des pièces ou d'autres corps étrangers à travers ce filtre. Donc, c'est très simple de pouvoir le retirer. À l'aide d'un petit tournevis, on peut débloquer la trappe, dévisser le filtre de vidange et le nettoyer pour pouvoir le remettre en place par la suite.
Ah oui, c'est souvent qu'un filtre, quoi.
Voilà, donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Ensuite, il y a d'autres vérifications à faire, notamment quand on a retiré le filtre, c'est d'aller voir, il y a une petite hélice qui se situe au fond, c'est d'aller voir à l'aide de ce même tournevis si l'hélice se tourne bien de façon saccadée, c'est très important.
D'accord.
Ça montre l'état de santé en fait de la pompe de vidange. Si l'hélice tourne de façon libre, c'est-à-dire que la pompe est HS, et déjà ça nous donne une piste sur l'origine de la panne.
D'accord. Et non. La pompe, ça se remplace assez facilement, finalement.
Alors la pompe, oui, très facilement. Selon la composition et la marque de l'appareil, il est très facile de pouvoir le démonter et de démonter l'ensemble, en tout cas la carcasse de l'appareil, et d'aller voir tout de suite au niveau du bas, où se situe le filtre de vidange. La pompe de vidange se situe toujours derrière ce compartiment filtre.
D'accord. Alors moi, je dirais une chose, hein, quand on ouvre une carcasse d'appareil comme ça, il y a deux précautions principales. Un, mettre des gants, parce que c'est incroyablement coupant. Des gants, je sais que c'est s'il y a vraiment des arêtes là, c'est des rasoirs. Et puis prendre un petit récipient pour récupérer les vis, parce que ces saloperies de vis, ça s'en va toujours.
Et bien évidemment débrancher l'appareil.
Débrancher l'appareil,
c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler aussi. Hein.
Des précautions.
Oui.
Kevin, moi j'avais une petite question, parce que j'imagine que vous aidez des milliers en fait de particuliers tout au long de l'année. Vous devez récupérer énormément de data, et j'imagine que vous remonter quand même des types de pannes qui sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est les pannes qui remontent, c'est quasi toujours les mêmes, ou est-ce qu'il y en a vraiment énormément de différentes ?
Non, en fait, selon les appareils, on va identifier plusieurs typologies de pannes, mais il y a beaucoup de pannes récurrentes. C'est des pannes que nous, on identifie et qu'on arrive à transformer par la suite en outil gratuit sur notre site. C'est un diagnostic de panne. Nous, aujourd'hui, on est pratiquement les précurseurs sur tous les appareils de la maison, où en fonction du symptôme de panne, on va poser une série de questions via un petit chatbot en ligne, et on va demander à la personne de faire toutes les vérifications jusqu'à trouver quel était l'élément qui était à l'origine de cette anomalie. Toute la data qu'on récupère, bien évidemment, on arrive à la concaténer en outils pédagogiques pour servir au plus grand nombre.
D'accord.
Autrement dit, les informations, vous les synthétisez, parce que vous avez un vocabulaire qui est un petit peu geek, on va dire. Et vous les faites remonter aux marques aussi, j'imagine.
Oui, voilà. Donc nous, selon les marques, on arrive à remonter plusieurs problèmes qui sont récurrents, et de faire en sorte que les marques puissent par la suite régler ce problème-là déjà de leur côté. Et nous, on arrive à synthétiser un petit peu notre discours et puis pouvoir l'adapter au plus grand nombre pour que la personne lambda puisse intervenir sur son appareil et être averti.
Kevin, vous restez avec nous. Christian, oui. On revient dans un instant. Nous aurons Patrick avec nous au 32-16, qui a un four. Voilà, depuis 2016 et qui se met en erreur régulièrement. Et c'est dommage, parce que pour cuire un poulet avec un four en erreur,
oui, c'est difficile. Hein.
C'est embêtant. Alors, Kevin, j'espère que vous...
Il faut mettre du charbon de bois dedans.
Ouais, c'est pas forcément l'idéal. On va voir si on peut aider Patrick. Et puis, bien sûr, hein, si tout comme Patrick, vous avez un problème avec l'électroménager, c'est le moment ou jamais, hein, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On est là jusqu'à 8h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, quasi 8h moins le quart. Ce matin, on vous aide à réparer tous vos objets électroniques ou non du quotidien qui peuvent tomber en panne. Alors, on se focalise bien sûr sur l'électroménager, mais tiens, puisque nous avons Kevin Brighton de chez Spareka, qui est un spécialiste de la pièce détachée de l'électroménager et de la réparation. Kevin, est-ce qu'on peut de temps en temps aussi réparer sa télé qui tombe en panne, ou est-ce que c'est que l'électroménager chez vous ?
Alors, on fait aussi effectivement la télévision. La télévision, ça peut s'avérer un tout petit peu plus complexe, mais nous disposons de tutos qui marchent très bien en ligne. On a on a à peu près 1 million de vues sur des tutos de télévision. Comme l'électroménager, il y a des symptômes qui sont assez récurrents. On a du son mais pas d'image. On a une image qui est saccadée, ou alors la télévision qui ne s'allume plus du tout, qui clignote. Donc nous montrons à chaque fois quelle est l'origine de la panne, et nous montrons comment soit réparer vos composants ou changer des cartes électroniques ou des câbles à l'intérieur de ces appareils.
Et il y a Pierre qui est sur Direct Studio qui nous dit « Si votre TV tombe en panne, 9 chances sur 10 que ce soit le condensateur, c'est 1 euro et une soudure et ça refonctionne. » Alors je ne sais pas si, encore une fois, on reparle de condensateur, mais c'est peut-être le fusible qui pète le plus, non, dans tous ces appareils, Kevin ?
Alors, ça peut être peut-être le condensateur, c'est pas tout le temps le cas. Mmh. Le condensateur, il sert effectivement à accueillir l'alimentation et puis à la redistribuer à travers tous les organes de l'appareil. Mais ça peut être difficile de savoir si c'est le condensateur ou non. Après, généralement, on peut aussi remplacer une carte électronique et l'appareil repart pour de belles années aussi.
Très bien. On a Patrick au 32.
C'est un problème de four.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Patrick. Allez-y,
on vous écoute.
Question.
Oui, voilà, j'ai un souci avec un four Ariston. Ouais. J'ai pris possession de l'appartement en fin 2016 et depuis lors, régulièrement, j'ai des soucis avec ce four qui se met en erreur 07. Donc j'ai essayé de regarder sur Internet.
C'est James Bond derrière, je pense.
Pardon ?
C'est
l'erreur James Bond, l'erreur 07. Voilà, oui. C'est pour ça.
Donc j'ai regardé sur Internet, c'est déjà difficile de trouver des notices, mais on me dit qu'en fait ça pourrait venir du ventilateur. Donc j'ai démonté le four. J'ai regardé, j'ai essayé de dépoussiérer les ventilateurs, donc ça refonctionne très bien. Et de temps à autre, alors comme ça, en pleine
alors ça c'est difficile. Hein. Les pannes intermittentes comme ça, c'est comme en voiture. Hein. Classiquement, quand vous amenez votre voiture au garage, ça remarche et puis voilà. Vous ressortez, ça ne marche plus. Kevin, qu'est-ce que ça peut être? Vous avez une idée là?
Alors le code 07 pour un four, généralement, c'est quand ce four se met en surchauffe. Donc effectivement, c'est souvent un problème qui est lié au ventilateur. Qui permet justement de pouvoir faire baisser la température pendant ou après la cuisson.
Ouais.
Donc ça peut être effectivement ce ventilateur, mais ça peut être aussi un problème de sonde de température. Il y a une pièce qui permet de récupérer les informations qu'il y a, la température qui est présente dans le four et de la renvoyer à la carte électronique pour dire, voilà, on stoppe la chauffe ou on la continue. Donc ça peut être aussi un problème au niveau de ce petit capteur.
D'accord, donc, mais ça c'est un peu compliqué, non? Il faut sortir le four de toute façon, il faut le poser sur une table, démonter la carcasse là aussi, et ça se trouve où votre petite pièce là?
Alors cette pièce là, elle se trouve généralement, c'est un espèce de petit tube métallique qui est planté en fait à l'intérieur du four.
Ah oui, je vois.
On peut très facilement la déloger, la sortir de l'arrière après avoir sorti la carcasse du four. Et de pouvoir la sortir par l'extérieur. Et généralement, elle est toujours branchée aux résistances, puisque c'est elle qui va autoriser ou non la chauffe et également le ventilateur. Donc ça travaille vraiment, la sonde, les résistances et le ventilateur travaillent vraiment ensemble pour garantir une bonne cuisson et une bonne température.
D'accord. Bon, bah Patrick, ça vous va? C'est une bonne
piste. Oui, parfait.
Une bonne piste.
Hein. La sonde.
Voilà.
Si on a Ludo sur Direct Studio qui nous dit attention lors du remontage d'un appareil, il faut prêter une attention toute particulière au fil de prise de terre, car il y a beaucoup d'accidents d'électrocution. C'est un conseil que vous pouvez donner aussi, ça, Kevin?
Oui. Alors justement, le fil de terre, c'est ce qui permet de ne pas avoir d'électrocution quand on touche à la carcasse de l'appareil. Quand on fait les rebranchements, il faut faire très attention à ça. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand on fait des débranchements de câbles pendant le démontage, c'est de prendre une petite photo avec le smartphone.
Oui, ça, c'est une bonne idée.
Toutes les erreurs au remontage.
Ouais. Alors, je vais vous dire, sur le problème des couleurs de fil, moi, je peste, hein, parce que il y a beaucoup de matériel qui nous viennent, on va dire, de très loin, si en clair de Chine ou autre, et où le code des couleurs électrique n'est pas du tout celui de la France et on peut avoir des soucis.
Oui, donc ça peut prêter à confusion,
voilà,
c'est
parce
ça.
Parce que pour ce qui est du fil de terre, le fil de terre en France, il est jaune, il est vert ou il est vert jaune. Hein. Mais je pense que vous allez le confirmer, hein, Kevin. C'est pas toujours le cas dans les appareils qu'on reçoit de pays étrangers lointains.
Oui, alors justement. En France, nous, c'est toujours comme ça. Après, les normes peuvent changer en fonction des pays. Il est toujours bon de se rapporter à une notice constructeur ou à un schéma électrique qui peut être disponible sur Internet.
D'accord.
D'accord. Alors, on a Phil, s'il vous plaît, au 3216, qui a une question, Kevin, pour vous. Bonjour, Phil.
Oui, bonjour, messieurs.
Bonjour,
bienvenue.
Phil.
Bienvenue. Vous nous appelez d'où?
De la Loire, près de Saint-Étienne.
D'accord. Et vous avez le frigo qui fatigue?
Eh bien, oui, écoutez, il se réenclenche plus, enfin, il fonctionne, mais dès qu'il arrive à température, il s'arrête et il ne recontacte plus. Je suis obligé tourner le bouton intérieur pour que il redémarre.
Ah oui, c'est embêtant parce que vous êtes obligé d'être toute la journée devant le frigo.
Voilà, oui.
Ça c'est
et embêtant. Alors la nuit.
Enfin, cela dit, en ces périodes de cela dit, en ces périodes de confinement, ça va.
En ce moment, j'ai pas de problème.
On a accès. Et vous relayez avec madame, peut-être pour.
Oui,
chérie, lève-toi, vérifie le frigo.
On met le réveil et puis on
promène. Philippe, on rigole, mais bon, c'est pas rigolo.
Kevin, qu'est-ce que vous nous dites là?
Alors, c'est un problème généralement de thermostat hein, qui peut survenir dans ces moments-là. C'est encore une fois très facile de pouvoir débrancher l'appareil et d'aller sortir ce thermostat qui est seulement un petit bloc qui se situe sur le côté gauche généralement de la partie réfrigération.
Alors vous notez bien, Notez bien. Donc
oui.
Alors il est sur le côté gauche, mais gauche en regardant l'appareil par l'avant ou par l'arrière?
Par l'avant, quand on est face à l'appareil.
D'accord.
Parce que l'arrière, en général, on n'y a pas accès, Christian.
Ah bah oui,
il est enfoncé.
Il faut le sortir, le frigo, là.
Oui.
S'il est encastré. Et alors, votre petit bloc, il est où? Il est visible de l'extérieur?
Il est visible de l'extérieur. C'est généralement le petit bloc où il y a une petite molette qui permet de régler la température souhaitée dans la réfrigération.
Ah donc, il est à l'intérieur de la cuve?
Il est à l'intérieur, oui.
Ah d'accord, oui, je pensais qu'il était derrière, moi. Non, alors donc il est à l'intérieur, oui, comment on le sort, ce petit bloc? Il est fixé par derrière?
Toujours la composition de l'appareil, parce que les marques peuvent être un petit peu différentes, et du coup le démontage peut être également différent, mais ce bloc-là, on peut souvent l'extraire à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, et d'aller retirer et le thermostat qui est suivi par toujours une sonde de température, un peu comme le four, et d'aller pouvoir le tester à l'aide d'un appareil de mesure pour savoir s'il fonctionne bien. Donc on dispose toujours de tutos sur internet où on vous montre comment faire les bonnes mesures et savoir quelles sont les mesures à faire et si les valeurs qu'on a à l'aide d'un multimètre ou d'un ohmmètre sont bonnes.
Très bien.
Ben merci Phil et bon courage. Hein. J'espère que vous êtes bien.
Merci beaucoup et encore un grand merci pour vos émissions.
C'est ben voilà. Super. Et on espère.
Une bonne journée.
On espère que vous n'allez pas rester pendant tout le confinement
merci
devant votre frigo.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup. Kevin, merci pour toutes ces explications. Rappelons l'orthographe de votre site. C'est Spareka. Hein. Ça s'écrit Spareka.
Et ouais. .fr,
voilà, si vous voulez retrouver tous les tutos pour réparer vos appareils électroménagers. Merci Kevin.
Merci à vous, très très bonne matinée.
Merci. Marie est avec nous au 32-16, on passe à autre chose. Marie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Ah ben Marie,
bonjour,
Marie, vous, on vous connaît.
Je m'étais trompé dans mes fiches là.
La vieillesse est un naufrage,
oui,
même pour Christian PC.
Merci.
Marie, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, expliquez-nous pourquoi vous nous rappelez aujourd'hui.
Alors, je vous ai rappelé parce que nous avons projet de rénover la façade de notre maison. Et puis on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de l'isoler par l'extérieur
en même temps.
Voilà. Donc il y a quelques semaines de cela, vous aviez donné un conseil de faire fer.fr. Donc ce que je me suis empressée de faire, j'ai été en contact avec une personne qui a fait un diagnostic complet de la maison.
Génial.
Cependant, on a pu faire qu'un seul devis parce que avec le confinement, les deux autres artisans n'ont pas pu venir.
Oui.
Et on est un peu tombé de notre chaise quand on a vu le premier devis qui nous a été fait.
Oui.
Alors certes, il a été un peu fait à la va-vite parce que voilà, il y avait très peu de choses sur le devis, il n'y avait même pas un courrier. Enfin bref.
Faut pas prendre celui-là, vous dégagez.
C'est sûr qu'on va même pas négocier, on va même pas le rappeler. En revanche, quand on a eu ce diagnostic avec la personne de notre communauté de communes, elle me semblait dire qu'alors il y avait trois types d'isolation par l'extérieur. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors il y avait l'isolation par le polystyrène qui est le premier niveau.
Ouais,
après il y a l'isolation, je ne sais plus, de l'intermédiaire. Et le troisième c'était à base de produits naturels. Évidemment.
Ça veut rien dire.
D'accord.
Les produits naturels, ça veut rien dire. À part le PSE, c'est-à-dire le polystyrène, qui effectivement est un produit pétrolier, mais tous les autres produits sont plus ou moins à un moment naturel.
D'accord.
Donc après, du biosourcé, c'est la meilleure expression encore.
En fait, notre interrogation, c'est de se dire, notre façade représente à peu près 237 mètres carrés, sans les ouvertures non déduites, hein, et on voulait simplement se dire quelle est est le budget moyen si on est sur la tranche polystyrène sur le premier niveau. Et puis la deuxième question, c'était de savoir, est-ce que ce qui ne semblait pas être le cas de l'avis de cette experte, c'est que si on isole pour le froid, on n'isole pas pour autant pour le chaud l'été.
Bon, alors ça, c'est le problème du déphasage. Si vous voulez, c'est très important au niveau de la toiture, ça l'est beaucoup moins au niveau des murs. Donc on isole très mal. Globalement, on isole très mal contre la chaleur. On va simplifier les choses. C'est beaucoup plus facile d'isoler contre le froid que contre la chaleur. Contre la chaleur, c'est surtout, il faut jouer ensuite sur le rafraîchissement, notamment le rafraîchissement naturel par une bonne ventilation, avec l'utilisation notamment du rafraîchissement nocturne qui fait que on va rafraîchir son intérieur. Alors ensuite, vous me parliez de budget. Moi, je vais vous dire, suivant le type d'isolation, c'est entre 120 et 150 euros le mètre carré. Effectif, c'est-à-dire ouverture déduite. Donc vous pouvez faire votre calcul assez facilement. La proposition basique qui vous est faite avec du PSE et alors je sais pas si on vous propose derrière un enduit, un crépi ou un bardage.
Un enduit, voilà. Qu'on veut pas
alors, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. Ensuite, vous avez les isolants minéraux et puis les isolants dits biosourcés qui peuvent effectivement être utilisés et très bien, d'accord, et très bien fonctionner. Vous allez avoir une épaisseur d'environ 160 mm d'épaisseur. Hein. Faut quand même le savoir. Hein.